RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de ce Wimbledon 2026 avec ce Day 7 très long, très dense. On a d'ailleurs failli assister à un petit événement, c'est rarissime, à savoir l'interruption d'un match à cause du couvre-feu qui est fixé ici à 23h. Il s'en est fallu de quelques minutes. Coco Gauff a failli déborder, comme on dit, et s'il n'avait pas conclu son jeu de service à 5-4 face à Belinda Bencic, eh bien, les deux jeunes filles auraient été stoppées par la juge-arbitre, puisque c'est la règle ici, on ne peut plus jouer après 23h pour ne pas perturber le voisinage. C'est un accord qui a été signé donc, avec les habitants de Wimbledon. On est dans la banlieue cossue de ouest de Londres, et c'est vrai que ça procure quand même quelques petites perturbations, les voitures, et donc ça gêne le sommeil des gens qui habitent donc dans les maisons à côté du stade. Coco donc a été parfaite on time, comme on dit. Elle a d'ailleurs montré sa montre à son staff lorsqu'elle a conclu sa balle de match face à Belinda Bencic, mais c'était vraiment ric-rac. Et ben, puisqu'on est avec Coco Gauff, on va se concentrer sur le tableau féminin. Et je vais commencer par une énumération qui va... Bon, vous allez tout de suite voir où je veux en venir. 2016, Serena Williams. 2017, Garbine Muguruza. 2018, Angélique Kerber. 2019, Simona Halep. 2021, Ash Barty. 2022, Elena Rybakina. 2023, Markéta Vondrousova. 2024, Barbora Krejcikova. 2025, Iga Świątek. 2026, il y aura encore un nouveau nom, une nouvelle gagnante au palmarès de ce Wimbledon. Ça paraît complètement dingue, mais ce sera la 10e fille différente qui va inscrire son nom au tableau d'honneur. Et bien difficile de déterminer une favorite parce qu'il y a eu une hécatombe ces deux derniers jours. Iga Świątek tenant du titre, sortie par Alexandra Ayala. Amanda Anisimova sortie aussi. Elena Rybakina éjectée par Elise Mertens. Et puis cet après-midi, Barbora Krejcikova, qui était la dernière gagnante encore en vie, qui a perdu son derby tchèque face à sa copine Mukova. Donc voilà, c'était officiel dans l'après-midi. Il y aura une nouvelle gagnante ici à Wimbledon. Donc faites vos jeux. Il y a encore 12 filles qui sont en capacité d'aller chercher le trophée. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que parmi ces 12 filles, il n'y en a qu'une seule qui a déjà atteint la finale ici sur le gazon londonien. Donc c'est celle qu'on attendait, c'était Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka, c'est encore fourvoyée. Nouvelle défaite pour la Biélorusse qui ne parvient pas à assumer son statut de numéro 1 mondial. Zéro chelem alors que... On a joué l'Open d'Australie, on a joué Roland-Garros et on a joué donc Wimbledon. Elle a été surclassée, je crois que le mot n'est pas trop fort, par une extraordinaire Naomi Osaka, qu'on ne savait pas aussi forte sur air, puisque c'est la première fois qu'elle atteint les quarts de finale sur le gazon londonien. Mais Naomi Osaka a livré une partie époustouflante, 6-2-7-6 face à Aryna Sabalenka, donc qui accumule les désillusions. Il y a eu cette demi-finale perdue de manière incroyable contre Schneider à Roland-Garros avec un 6-0 au troisième. Et bien cet après-midi, elle n'a pas fait le poids, et ce sont pas mal de statistiques qui tombent pour la numéro 1 mondiale, puisque elle était sur 14 quarts de finale en chelem d'affilée, donc ça saute. Elle était sur 21 tie-break consécutifs remportés, ça saute. Et puis surtout, ce qui paraît encore plus dingue, elle n'avait plus perdu en 2-7 secs en grand chelem depuis l'US Open 2020. C'était contre Victoria Azarenka. Et franchement, on s'y attendait pas forcément, puisqu'elle restait sur 3 victoires contre la japonaise, Indian Wells, Madrid, Roland. Sur herbe, elle a des lacunes, Aryna Sabalenka. Elle n'a jamais trouvé le chemin pour perturber Osaka, qui a été parfaite dans tous les domaines, et qui donc, elle se dessine peut-être comme l'une des favorites du tournoi, parce que quand on regarde les filles qui restent, elle a l'expérience, elle sait gagner des chelems. Et si elle parvient donc à garder la même forme, s'il n'y a pas de pépin physique, parce qu'on sait que Naomi parfois, il lui tombe un truc en plein tournoi et ça l'oblige à abandonner. pour moi, c'est devenu la favorite de cette édition 2026. Alors, la conf de presse de Aryna Sabalenka, il fallait évidemment la surveiller parce qu'une fois de plus, elle a fait le show. Et je vous propose de l'écouter, je vous traduis derrière parce que bon, j'aime pas quand il y a une VF. Écoutez-la.
I don't want to even like think about ranking to go at this point. I just want to go, get completely drunk, forget about tennis and try to get better in a better shape.
Ouais, alors en gros, elle dit là, j'ai juste envie de partir, j'ai juste envie de me bourrer la gueule, entre guillemets, passez-moi l'expression, et d'essayer de revenir en pleine forme. Mais mon année est foutue, quoi. J'ai totalement foiré mon année. Donc ça veut dire que, bon, là, elle est très pessimiste, parce qu'il reste quand même un grand chelem à jouer, et c'est un grand chelem qu'elle adore, c'est l'US Open, c'est sa surface préférée, quand même, le dur. Mais voilà, elle est au fond de la mine. Il va falloir qu'elle se remette en question sur le plan tactique, je trouve, mais aussi technique, parce qu'elle manque de variation. C'est pas la première fois qu'on le constate, mais sur herbe, il faut savoir slicer de temps en temps. On peut pas frapper toujours dans tous les sens parce que la balle n'arrive pas à hauteur de range, donc c'est complètement différent. Je note aussi qu'elle a un rapport assez particulier avec l'alcool, parce que c'est pas la première fois qu'elle fait allusion à des cuites, hein, passez-moi l'expression. Mais bon, c'est son moyen d'oublier avec son petit copain brésilien. Je pense qu'ils vont consommer pas mal de cocktails alcoolisés. Et je pense qu'on n'est pas près de la revoir sur le circuit. Elle va reprendre peut-être à Cincinnati ou au Canada, c'est même pas sûr. Mais en tout cas, sa place de numéro mondial était en danger avant Wimbledon. Elle a été sauvée parce que Rybakina s'est plantée avant elle. Mais elle va devoir défendre les 2000 points de sa victoire à Flushing Meadows. Et là, Rybakina peut peut-être en profiter. Ce sera donc l'enjeu du dernier chelem de l'année, mais elle doit absolument sauver sa saison, parce qu'elle peut terminer numéro mondial avec zéro chelem, ce qui serait quand même assez rare dans l'histoire du tennis féminin. Alors Osaka, on en parle, je vous l'ai dit, pour moi c'est une fille qui peut aller au bout, même si elle aura un quart très compliqué contre Karolina Muchová, qui est une fille qui a beaucoup de talent, qui a un jeu justement très varié, qui sait faire plein de choses sur herbe, qui est venue à bout de sa compatriote Krejcikova en 3-7, 7-5, 5-7, 6-3. Ça a été long à se dessiner, mais voilà, elle est parvenue à ses fins. Et donc, c'est une affiche assez splendide qui nous occupera mardi. L'autre quart de finale du haut de tableau opposera Jessica Pegula à Coco Gauff, donc duel 100% américain. Pegula a repoussé la menace Ivajovic, même s'il a connu petite alerte, puisqu'elle a perdu le premier, mais derrière, elle a imposé son expérience. Elle joue très bien sur herbe, elle a les trajectoires très tendues, et ça lui convient parfaitement. 4-6, 6-3, 6-1. Quant à Gauff, Coco, premier set horrible contre Belinda Bencic. Je crois qu'elle finit à 24 fautes directes, mais heureusement, elle a imposé sa niaque, et Belinda Bencic a manqué un petit peu de jambe hein, sur la fin, mais c'est dommage pour la Suissesse parce qu'il y a vraiment un coup à jouer. Mais Coco donc s'en est sorti, je vous l'ai dit, à 22h57, 4-6, 6-3, 6-4. Pegula Gauff, si je devais mettre des sous, je les mettrais peut-être sur Jessica Pegula, qui est toujours placée jamais gagnante. Peut-être qu'à un moment, ça va sourire, et peut-être que c'est son tournoi. Hein. Je vous dis, Osaka, pour moi, est plus forte, mais si ça se trouve, c'est Pegula qui va décrocher le morceau, c'est complètement possible. On passe aux garçons, avec une journée très dense, avec des matchs très longs, et notamment donc le match de Novak Djokovic, le septuple vainqueur, qui s'est encore fait des frayeurs aujourd'hui contre Roman Safiulin, le russe, sorti des qualifs. Victoire en 4-7, 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, 3h26 de lutte. Mais Djoko a trouvé encore une fois le chemin pour éviter le piège tendu par Safiulin. Il peut s'estimer heureux, le Serbe, parce que le premier set, il ne mérite pas de le prendre, à mon sens. Il est mené vite 5-2, il sauve 2 balles de set sur sa mise en jeu. Et finalement, Safiulin derrière, je pense qu'il s'est un peu tendu et il a laissé filer l'occasion. Notamment dans le tie-break où il perd 8-6, il fait le plus dur, il sauve 3 balles de 7, mais à 6 points partout, il fait un peu n'importe quoi. Et même si Djoko connaît encore une petite défaillance, c'est pas la première, dans le troisième, il lâche beaucoup de 7. Ça fait le troisième match où il lâche un 7, sans conséquence. Mais au final, attention, on va arriver dans la dernière ligne droite, il faut absolument qu'il soit à fond, et il le dit, il n'était pas totalement satisfait de lui, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Il s'est pas senti à l'aise en fond de course face à Safiulin, qui est pourtant pas bon. Ok, c'est un mec qui a été top 40, mais il se sentait presque inférieur à Safiulin en fond de course, d'où le recours au service volé, au monté au filet. Il est venu 40 fois au filet avec un pourcentage positif, 23 sur 40, c'est bien, et ça prouve qu'il a, voilà, il a l'expérience. Il sait que si le plan A marche pas, il y a le plan B. 106e victoire ici sur le gazon londonien. 66e quart de finale, voilà, ça ce sont des chiffres, c'est juste impressionnant, c'est juste bluffant. C'est Novak Djokovic. Djokovic qui affrontera dans deux jours Félix Auger-Aliassim, qui a répondu présent, qui assume son statut de tête de série 3, et pourtant ça n'a pas été simple. Hein. Sur le cours numéro 1 face à Alejandro Davidovich-Fokina, qui est en pleine bourre puisqu'il a gagné Majorque et qu'il était sur une superbe série, l'Espagnol a pris le premier, derrière il a un peu coincé, et puis il y a eu un quatrième set absolument dingo, avec une petite polémique. Alors je vous explique, Davidovich Fokina, qui a déjà eu un petit pépin à la cheville, se refait mal, enfin, se tord de douleur, alors que Félix Auger-Aliassim sert pour le match à 6-5, qui se retrouve à 15-30, puis 15-40, puisqu'il perd le fameux point où Davidovich Fokina se tord de douleur. Et là, il y a un point de règlement qui n'est peut-être pas juste, mais Davidovich Fokina bénéficie d'un temps mort médical. Et ça perturbe complètement Félix Auger-Aliassim, qui est droit dans ses bottes, qui estime qu'il y a des règles qui ne sont pas bonnes, et il a fait n'importe quoi quand le jeu a repris. Donc il perd son jeu de service, il perd le time break, donc il est embarqué dans une cinquième manche qui devient tout d'un coup dangereuse, alors qu'il était au-dessus. Et heureusement, il garde son sang-froid pour s'imposer 6 jeux à 1 face à un Espagnol qui, à mon avis, quand même avait la cheville un peu douloureuse, mais ça a duré 4h26 quand même cette affaire. La poignée de main était un peu sèche, et il y a même eu une explication de texte, parce que Félix Auger-Aliassim, ensuite, quand on lui a demandé de la teneur des propos de la brouille, on lui a dit, écoutez, je ne vais pas m'étendre, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que le règlement n'est pas adapté. Enfin, adapté, c'est un terme qui est faible, il dit, si un joueur se blesse gravement sur le service adverse, qu'il n'est pas en état de reprendre, on fait défiler le chrono, on a un point de pénalité, deux points de pénalité, et le jeu est perdu. Une fois que le jeu est perdu, il peut bénéficier, selon lui, d'un temps mort médical, donc de l'arrivée du kiné ou du médecin. Et voilà, pour lui, ça doit se passer comme ça. Il dit, la règle, c'est un véritable scandale, selon lui. Et il l'a répété deux fois, c'est un scandale, it's a shame, c'est a disgrace, c'est une honte. Donc des mots très forts prononcés par le Canadien. Est-ce qu'il a raison? Non, mais je pense qu'il a... Son argument tient la route parce que, franchement, il était perturbé. Quand vous êtes au service et que le jeu est arrêté, bah, vous perdez votre timing, vous refroidissez. Et ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il n'a pas assuré derrière et ça l'a rendu dingue, à tel point qu'il a totalement gavoldé le timing du quatrième, mais heureusement sans conséquence. Il est au rendez-vous des quarts comme à Roland, il veut plus. Maintenant, il sait qu'il s'attaque à une légende de ce grand chelem londonien, mais ça va donner un match assez sexy, quoi. Parce que Félix Auger-Aliassim, il a un pouvoir de percussion qui est énorme. On voit bien que Djoko commence à faire son âge, et si le match dure longtemps, ça peut déboucher sur une petite surprise. Voilà. En tout cas, ce sera un match qui, à mon avis, se déroulera sur le central ou pas, parce qu'en général, oui, les Anglais, le mardi, ils font un quart sur le 1 et un quart sur le central. Hein. Ils ne mettent pas les deux quarts sur le même cours. Alors l'autre quart de finale, ce sera Yannick Sinner face à Struff. Bon, Sinner s'est sorti sans encombre de son duel face à Shintaro Mochizuki, le japonais. Il a un jeu très spécial, hein, Mochizuki. Mais bon, Sinner a trouvé la parade pour s'imposer en 3-7 et éviter une prolongation, avec notamment un tie-break du deuxième remporté 7-0. Mais il a dit beaucoup de bien du japonais, et il a raison. Mochizuki, c'est un régal d'avoir joué sur herbe. Il a, je trouve, le coup droit de Bernard Tomic. Mais alors, voler service, c'est bien au-dessus de l'Australien. Et il aurait peut-être mérité gagner un set. Mais bon, Sinner avait décidé de fermer à double tour. Et donc, il jouera au prochain tour Jan-Lennard Struff. Alors là, c'est une drôle d'histoire parce que Yann Lennard Struff a piqué un record détenu par un joueur français. C'est Fabrice Santoro qui doit être un peu désolé ce soir parce que je pense qu'il en était fier de ce record. De quel record s'agissait-il ? C'est le joueur le plus âgé à atteindre son premier quart de finale en Chelem. Fabrice l'avait fait il y a 20 ans à l'Open d'Australie, donc en 2006, à l'âge de 33 ans. Et bien là, je trouve, à 36 ans et 78 jours, il a fait mieux. Alors, il n'a pas pu savourer sur le court. Pourquoi ? Parce que Hubert Hurkacz a dû abandonner au milieu du 5e set. Il ne pouvait plus arquer, il avait mal au dos. Mais je pense qu'intérieurement, je trouve qu'il est... Il peut être fier de lui parce que c'est un garçon qui est sur le circuit depuis très longtemps, qui pointe aujourd'hui à la 74e place mondiale, qui a eu des bons résultats par-ci par-là, une finale de Masters 1000 à Madrid, qui est très bon sur surface rapide, qui adore le gazon parce que voilà, comme tous les Allemands, ils ont la chance d'avoir un tournoi à Halle ou Stuttgart et donc il les joue à chaque fois. Et ben là, c'est la persévérance est récompensée pour Struff, qui va donc défier le tenant du titre dans 2 jours. Est-ce qu'il lui reste encore un peu d'essence dans le moteur ? Parce que là, il a joué un match très long contre le Polonais. Au tour précédent, il avait battu Medvedev en 3, mais au deuxième tour, il avait mis aussi un paquet d'heures pour battre Nakashima 7-6 au 5e set avec un super tiebreak, gagné 10 points à 7. Mais bon, c'est sympa de voir, je trouve, quand même à ce stade de la compétition, même si on ne l'attendait pas. On attendait plutôt Tommy Paul ou Medvedev. Mais voilà, les deux têtes de série ont sauté dans ce secteur. Et je trouve a été très opportuniste. Voilà donc pour le tournoi masculin. Donc on connaît les deux quarts du haut. Et lundi, on va connaître les deux quarts du bas, avec les affiches que vous connaissez sûrement, de Minor Coppoli, Grigor Dimitrov contre Arthur Ferry. Ça, c'est le match qui m'intéresse le plus parce que c'est un joli contraste. Puis Grigor Dimitrov, il a une cote d'amour extraordinaire ici après sa grave blessure contractée il y a pile un an contre Yannick Sinner, alors qu'il était en train de dégommer l'Italien. Et puis deux autres rencontres qui s'annoncent aussi assez serrées. Fritz Bublik. Alors Bublik, s'il sert 48 aces, il va poser de gros problèmes à l'Américain. Et puis Zverev Lechka. Zverev peut-il atteindre les quarts ici à Wimbledon? C'est une vraie question. Lechka, c'est un bon joueur d'herbe, on le sait. Mais parfois, il pêche sur le plan mental. Et dans ce domaine, l'Allemand, là, depuis qu'il a gagné Roland, évidemment, c'est plus le même joueur. Donc il a plus peur de rien. Ça promet quand même deux beaux affrontements là. Ces deux rencontres, Fritz Bublik et Lechka Zverev. Et puis je voulais finir avec des petites infos sur les joueurs français parce que même si il y a plus de bleu dans les tableaux de simple, Sadio Doumbia et Fabien Roboul sont en quart de finale du double. Ça c'est bien. Et Manu Guinard aussi est en quart de finale du double, associé à l'Argentin André Ozzi. Donc voilà, ce sont deux bonnes nouvelles pour le tennis français. Et puis une autre info intéressante, Xenia Efremova a franchi le premier tour du tour junior sans le moindre problème. C'était vraiment une petite promenade de santé, les têtes de série 2 ici. Et puis surtout, on a noté qu'il n'y avait pas Manu Planck dans le box. Alors apparemment, c'est terminé. L'association a pris fin, donc il y a quelques semaines, je pense que c'est à l'issue de Roland-Garros, le débriefing a peut-être pas été du goût de la pépite tricolore, et donc son agent, Loïc Martin, est en recherche d'un coach, et c'est Pauline Parmentier qui lui file un petit coup de main, donc ici à Wimbledon. Donc ça fait beaucoup d'entraîneurs consommés quand même, puisqu'elle avait gagné l'Open d'Australie avec un entraîneur slovaque, on s'en souvient. Ensuite, il y a eu rupture, Manu Planck est arrivé. Il n'a pas pu vraiment travailler comme il l'entendait, puisqu'elle était blessée, Xenia, au printemps. Et puis c'est vrai qu'à Roland-Garros, ça s'est pas très bien passé, à la fois chez les hommes, dans le tableau principal où elle avait une wildcard, et dans le tableau junior où elle avait été éliminée dès le premier tour par une fille de 2011. Voilà. Ça n'empêchera peut-être pas de briller ici dans le tableau junior qui est assez relevé, vous en doutez. Voilà pour les infos. Allez, on va aller rentrer à la maison et puis on va quand même suivre le match Mexique-Angleterre qui passionne ici au pays. Apparemment, les pubs peuvent être ouverts jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Ça promet une belle ambiance dans les rues de Wimbledon, dans les quartiers de Southfield ou du Village. Voilà, ça c'est la particularité de ce tournoi qui est vraiment dans une grande banlieue, la banlieue ouest. Mais le Village, c'est un truc à faire, je vous conseille. Il y a des pubs qui sont assez réputés ici, donc là s'ils ferment à 4 heures du matin, ça peut être chaud. Allez, ciao ciao, à bientôt.